Bonsoir, c'est l'été sur France Culture, mais pas de vacances pour le temps du débat et tant mieux. Ce soir, quatre invités pour une seule question mais qui en cache beaucoup d'autres. 60 ans après les indépendances, quel enseignement supérieur pour l'Afrique ? C'est l'histoire d'Ife Melou, une jeune femme nigériane au talent académique certain qui, après un parcours au lycée brillant, entre à l'université de Nsukka, une ville du centre du Nigeria. Mais ce qu'elle trouve sur place ne ressemble en rien à ce dont elle rêvait pour ses études supérieures. Campus délabré, salle de cours surpeuplée et puis surtout la grève. Des grèves fréquentes, souvent trop longues, menées par des professeurs et des maîtres de conférences qui réclament leurs salaires impayés ainsi qu'un minimum de moyens pour pouvoir enseigner. Ne pouvant compter sur l'absence de grève, les étudiants espèrent seulement qu'elle serait de courte durée. Tout le monde parle de s'en aller. C'est ce que finira par faire Ife Melou. La jeune étudiante obtient une bourse d'études et s'envole pour les États-Unis. La suite de cette histoire, c'est celle d'Americana, l'excellent roman de l'autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Si Ife Melou n'est qu'un personnage de fiction, son expérience fait écho à celle de nombreux étudiants africains. En 1970, l'Afrique subsaharienne comptait 400 000 étudiants. En 2017, ils étaient 9 millions. En 2030, ils devraient être 20 millions sur les bancs des facs africaines. Un vrai défi pour les universités qui doivent se préparer à cet afflux massif de nouveaux étudiants et répondre à la forte demande d'éducation et de compétences sur le continent. Dans le même temps, comme Ife Melou, les étudiants africains n'ont bien souvent pas d'autre choix que de s'expatrier pour compléter leur formation. Ils sont ainsi les étudiants les plus mobiles au monde. Alors où et comment se forme aujourd'hui la jeunesse africaine qui demain dirigera le continent, comment enrayer la fuite des cerveaux, construire une souveraineté éducative, et puis à quoi rêvent les étudiants africains? En ce mois d'août, où 8 anciennes colonies françaises fêtent leurs 60 ans d'indépendance, dont 3 cette semaine, Niger, Burkina Faso et Côte d'Ivoire, nous allons esquisser des réponses à toutes ces questions en compagnie de nos invités. Diadié Dembélé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un étudiant malien arrivé en France en 2015 pour un master de création littéraire. Vous êtes le secrétaire général du Conseil national de la jeunesse malienne en France et par ailleurs auteur d'un recueil de poèmes, Les Tresses Royales, aux éditions de l'Harmattan. En face de vous, Hamzat Boukari Yabara, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes originaire du Bénin et de la Martinique, docteur en histoire et civilisation de l'Afrique. Vous intervenez régulièrement dans des universités africaines et vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont Africa Unite, une histoire du panafricanisme aux éditions de La Découverte. À distance, nous recevons également une sociologue nigérienne spécialiste des questions d'éducation en Afrique, également membre du centre de réflexion Thinking Africa, Khadija Toumaroussama, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Et puis pour finir, Mamadou Diouf nous fait l'honneur de participer à cette discussion depuis New York. Bonsoir à vous. Bonjour peut-être d'ailleurs, puisque vous êtes à New York.
Bonjour.
Mamadou Diouf, vous êtes professeur d'histoire et d'études africaines à l'Université de Columbia.
Quand je parle de l'école publique, je ne suis plus moi-même. Puisque je mesure ce que cette école m'a donné, et j'aimerais bien qu'elle continue, ce qui est de plus en plus difficile, à donner ce qu'elle m'a donné à des gens issus du milieu d'où je venais. Je suis un fils de paysan, même de paysan pauvre, voire même très pauvre, et l'école publique a réussi à faire de moi d'abord un instituteur, ensuite un professeur de lycée, avant d'arriver à l'université, dont je suis devenu le recteur. Ce parcours est de plus en plus difficile et je le regrette infiniment que ça soit difficile. C'est pourquoi je suis un défenseur intraitable de l'école publique, parce qu'elle réussit quelquefois des miracles.
Vous avez peut-être reconnu la voix d'Ibrahima Thioub, recteur de l'université de Cheikh Diop de Dakar au Sénégal. C'est l'une des universités les plus prestigieuses d'Afrique de l'Ouest. Il s'exprimait le 17 septembre dernier à l'université de Genève. Ibrahima Thioub, un pur produit donc de l'enseignement public sénégalais, en tout cas au début de son parcours, puisqu'ensuite il est parti, comme beaucoup, soutenir sa thèse en France dans les années 80. Et ce soir, nos quatre invités ont eu un parcours similaire à celui d'Ibrahima Thioub. Ils ont quitté l'Afrique pour poursuivre leur formation ou leur carrière d'enseignant ou de chercheur dans le monde occidental. C'est assez significatif, me semble-t-il, compte tenu de la question qui nous occupe aujourd'hui. Quel enseignement supérieur pour l'Afrique ? Diadié Dembélé, vous qui êtes encore étudiant, pour quelles raisons avez-vous choisi de quitter le Mali pour venir étudier en France ?
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
La première des raisons, si je peux le dire ainsi, c'était que lorsque j'ai eu mon bac, je viens d'une famille où mon père est ouvrier, ma mère est femme au foyer, donc plutôt un milieu assez modeste. Il n'y avait pas vraiment d'orientation familiale de ce que je devais faire. Et de ces faits-là, j'ai choisi d'aller faire une année de médecine à la FMOS de Bamako. Et entre-temps, étant donné tout ce que vous avez évoqué dans l'introduction, les grèves qu'il y avait, et aussi une particularité du Mali, qui a une nouvelle université privée, Kankoumoussa, où les étudiants peuvent faire les études sans faire de niveau de cursus, et que moi j'étais plutôt à la FMOS publique, toutes ces choses m'ont fait réfléchir. Je me suis dit, mais finalement, si je restais ici, étant donné ma condition sociale, est-ce qu'il y aurait pour moi la possibilité d'avoir accès à des... études supérieures de qualité, la possibilité ensuite, après les études, de pouvoir prétendre à un emploi qui me permettrait de me nourrir et aussi de prendre en charge une partie de ma famille. Et c'est avec toutes ces réflexions-là, finalement, que je suis parvenu à convaincre mes parents de mettre presque toutes leurs économies dans un bien d'avion. Et j'ai tenté la procédure Campus France et maintenant je suis là.
Et si vous aviez pu rester au Mali pour étudier, si les conditions étaient réunies, vous l'auriez fait ?
Absolument. Ici, la première année en France, ça a été très difficile. Bon, après, je viens d'un pays francophone, donc la langue française est déjà la langue officielle. Il n'y avait pas de dépaysement par rapport à cela, mais lorsqu'on quitte une ville comme Bamako et qu'on arrive à Paris, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui change. Et une fois à la fac, on se rend compte que finalement, toute notre vie, même pendant le lycée, on n'avait pas de travaux pratiques. Il y a beaucoup de choses, par exemple, notamment pour saisir les cours à la fac en France, on utilise un ordinateur. Et j'étais très lent pour écouter en même temps le professeur et saisir les cours. Et en plus de cela aussi, la première année, il y avait énormément de difficultés pour trouver un job emploi pour pouvoir aussi financer mes études, malgré que je bénéficiais quand même d'un peu de soutien de mes parents. Donc j'aurais absolument choisi de rester au Mali pour faire les études.
On reviendra sur l'état de ces universités en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général. Mais pour ouvrir cette réflexion, Mamadou Diouf, le regard d'un historien, lorsque les pays d'Afrique subsaharienne ont pris leur indépendance, grossièrement entre 1958 et 1965, est-ce qu'il y a eu une réflexion sur la question de l'enseignement supérieur ? Si oui, quels étaient les enjeux à l'époque ?
Je vous remercie de m'avoir invité. Et la question que vous soulevez est une question importante. Et quand on y réfléchit en tant qu'historien, on se rend compte d'une chose, c'est que la question de l'enseignement est probablement la question qui a le plus préoccupé les élites africaines dans les années 50 et au début des années 60 quand ils s'engagent dans la construction des États-nations, parce qu'ils ont essayé de répondre à plusieurs questions. La première question, c'est en fait, dès les dernières années de la colonisation, c'est d'aller à l'école et de s'investir dans cette formation. De s'investir dans cette formation pour être en position non seulement de réclamer l'indépendance, mais aussi de montrer qu'ils sont capables de créer des États. Et là, c'est là où aussi on voit très bien que, si vous voulez, la philosophie de la mission civilisatrice est une philosophie qui tendait à réduire la formation des Africains. Et les Africains se sont battus pour se former. Il faut voir, par exemple, le nombre extraordinaire d'étudiants sortis de William Ponty pour devenir des instituteurs ou des médecins africains qui vont faire le bac pour pouvoir faire des études supérieures. Et faire ces études supérieures, c'est arriver en France. Donc la connexion entre études supérieures et France est une connexion historique qui est expliquée par les conditions dans lesquelles les Africains francophones étaient formés. Deuxième chose importante qu'on voit, par exemple, dans le livre extraordinaire de Bernard Daguet, qui est publié au milieu des années 50, Climbier, il passe son temps à répéter, ils ne veulent pas qu'on aille dans les bibliothèques, mais il faut qu'on y aille. Ils ne veulent pas qu'on lise, mais il faut qu'on lise. Donc, l'enseignement et l'enseignement supérieur est central dans la vision que les Africains créent. Et très vite, les étudiants, à la fin des années 50, se battent pour avoir une université à Dakar, qu'ils vont avoir en 57. Et ces étudiants vont continuer à se battre pour aller faire des études en France, choisir leur discipline, au lieu de laisser l'administration coloniale, faire le choix pour eux. Donc, et la question à résoudre, l'africanisation des cadres, est fortement liée à la formation des Africains. Et cette africanisation des cadres, les Africains francophones se battent dès les années 50, dès l'après-guerre, en fait, l'après-seconde guerre mondiale pour ça. Donc, la question de l'enseignement, elle est centrale politiquement, mm-hmm. elle est aussi une question centrale professionnellement. Et comme je disais, le fait d'aller en France pour faire des études était quelque chose qui faisait partie de cette revendication des nationalistes africains.
Merci, Mamadou Diouf. Alors, vous parlez des étudiants qui, dès les années 50, rêvent d'aller en France faire leurs études. Hamzat Boukhari Yabara, qu'en est-il des universités qui se créent sur le continent africain dès les indépendances? Sur quel modèle s'est construit cet enseignement supérieur? Est-ce qu'il a cherché à s'émanciper, justement, du modèle des pays colonisateurs ou est-ce qu'il s'est fondu dans ce modèle existant?
Il s'est principalement fondu dans ce modèle existant. Si on prend le cas des universités de Makerere, notamment en Ouganda, même un peu plus tard de Dar es Salaam, qui était un peu fondé sur le modèle hybride de Oxford et Cambridge, donc assez élitiste et en même temps ouverte à l'international dans le réseau anglophone. Du côté francophone, l'université de Dakar a joué un rôle très important, puisqu'effectivement, dans la continuité de l'école William Ponty, et d'un certain nombre d'établissements qui avaient déjà des partenariats avec la France. On a les quatre communes qui avaient des citoyens français qui envoyaient déjà des étudiants à Bordeaux notamment. Donc il y avait déjà des filières en droit, en pharmacie, en médecine, qui faisaient que les étudiants faisaient leur premier cycle là, puis ensuite montaient en France. Et donc l'Université de Dakar va rester, je pense, le centre principal de l'Afrique de l'Ouest, en agglomérant donc des étudiants de toute l'Afrique de l'Ouest. Et c'est à partir, je dirais, de l'équivalent du mai 68 de Dakar, qu'un certain nombre d'étudiants étrangers qui étaient présents à Dakar, notamment, vont être renvoyés dans leur pays d'origine et que dans des pays comme le Bénin, donc le Dahomey de l'époque, ou même le Niger, le Burkina Faso ou le Cameroun, va se poser la question de créer une université nationale. Et donc, on va voir progressivement chacune des nations indépendantes mettre en place sa propre université nationale et sortir un peu du modèle fédéral que pouvait représenter l'université de Dakar, qui avait, je dirais, le poids critique, la masse critique pour peser à l'échelle internationale. Et donc aujourd'hui, ce qui se pose peut-être aussi comme question, c'est une sorte de monde universitaire à deux vitesses, avec des universités qui ont une masse critique d'étudiants et de moyens et de connexions, et d'autres qui sont beaucoup plus, je dirais, dépassées, et qui renvoie finalement à la question de la mutualisation des moyens et au fait que il faudrait peut-être repenser la carte des universités en Afrique, également repenser le curriculum de ces universités-là. Ensuite, il y a un deuxième élément qu'on parle, je pense, des universités africaines à ce moment-là. On parle de la question de la fabrication des élites africaines. Et dans les années 50, il y avait des étudiants africains en France qui constituaient une contre-élite, notamment les étudiants de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui étaient très opposés au futur père de l'indépendance. Et donc, au moment des indépendances, il y aura, je dirais, un conflit de génération qui est toujours présent dans la manière dont on perçoit l'université comme un lieu de dissidence, de subversion, et qui, je dirais, est aussi à prendre en compte dans le rapport politique que les États vont avoir à l'université. Après, on a aussi quelques cas particuliers, comme le cas de la Guinée, de Sékou Touré, donc qui prend son indépendance en 58 et qui va faire venir donc à Conakry un certain nombre d'intellectuels africains, antillais et même français qui ont défié l'interdiction de la France et qui vont mettre leurs compétences au service de ce projet universitaire. Donc je dirais que au moment des indépendances, on est dans une explosion universitaire, puisque bien évidemment, avant les indépendances, il y avait à peu près une dizaine d'universités en Afrique. Et aujourd'hui, on est à, je dirais, entre 300 et 400 universités en Afrique. Donc il y a effectivement une explosion du nombre d'étudiants, du nombre d'universités depuis 60 ans.
Et la question des financements, des moyens que vous posiez au début de votre réponse se pose toujours et de manière assez criante aujourd'hui. Khadijatou Maroussama, vous êtes sociologue, vous avez mené une étude sur les universités et sur les chercheurs au Niger. Comment sont-elles financées, les universités au Niger? Et voilà, je suppose aussi qu'il y a d'énormes différences d'un pays à l'autre en fonction des moyens de l'État.
Exactement. Donc, dans le cas du Niger, en fait, déjà, j'aimerais préciser qu'en fait, il a fallu attendre 1971. Le Niger a eu son indépendance le 3 août 1960. Donc, c'est en 1971 qu'a été créée la première université publique, l'université Abdou Momouni de Niamey, qui est une université, en fait, implantée au sein de la capitale Niamey. Donc, après la création de cette université, en fait, le Niger a mis en place une politique d'enseignement supérieur et de recherche qu'il a appelée programmation. C'est une politique en fait qui consistait pour l'État nigérien à donner des bourses aux ressortissants nigériens, des bourses nationales nigériennes comme étrangères, pour qu'ils aillent se former à l'étranger et qu'ils retournent servir l'université de Niamey, mais pas que, aussi le premier institut de recherche du Niger, c'est l'Institut national de recherche agronomique du Niger. Donc, les étudiants partaient à l'étranger à l'issue de leur formation. Avant même d'aller en formation, ils savaient déjà que dans quatre ans ou cinq ans, ils allaient retourner au Niger occuper un poste soit à l'université de Niamey, soit à l'Institut de recherche agronomique du Niger, ou bien soit dans les ministères. Donc, si vous voulez, en ce temps-là, le Niger avait vraiment mis en place, il s'était investi en fait dans la formation non seulement des chercheurs, mais également dans le financement de la recherche. Malheureusement, il y a eu les programmes d'ajustement structurel qui ont été imposés par le FMI et la Banque mondiale. Donc, suite à ces programmes d'ajustement structurel, en fait, les États africains ont été contraints de se désengager du financement de la recherche. Et donc, ça a concerné donc notamment le Niger, qui aujourd'hui, donc au Niger, le Niger s'était désengagé, c'était dans les années 90. Et il a fallu attendre en fait les années 2000 pour que le Niger se remette à réinvestir dans la recherche au niveau principalement de l'université Abdou Momouni de Niamey, où il a mis en place un fonds national d'incitation à la recherche. Je précise qu'à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, un tel fonds n'existe pas. Donc, on voit qu'en fait, l'État se concentre beaucoup plus sur l'université, même si les chercheurs avec lesquels je me suis entretenue soulignent que, justement, les fonds qui ont été mis en place, en fait, le fonds d'incitation à la recherche représente 25% du budget alloué à l'université de Niamey. Donc, ce sont des fonds qui ne sont pas vraiment suffisants pour conduire les activités de recherche. Donc, bien entendu, les bailleurs de fonds sont là aussi pour appuyer les recherches qui sont conduites sur place, même si il n'y a pas assez de coordination entre les différents bailleurs de fonds.
Mamadou Diouf, on a l'impression qu'il y a une vraie fracture entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, que les universités anglophones s'en sortent un petit peu mieux que les autres. Alors, il n'y a aucune université africaine qui figure dans les fameux classements qui sortent tous les ans des meilleures universités au monde. Mais les universités sud-africaines, les universités du Kenya, du Ghana semblent s'en sortir un peu mieux. Est-ce que c'est vraiment le cas et pourquoi? Comment l'expliquez-vous?
Je pense que c'est le cas pour deux raisons principalement. La première raison est une raison d'organisation des universités anglophones qui sont restées tributaires à la fois de logiques qui sont des logiques locales, c'est-à-dire soutenu par les autorités, pas seulement publiques, mais soutenu aussi par les entreprises. Mais aussi, il y a une forte tradition qui est une tradition, si vous voulez, chrétienne, qui font que les églises, et en particulier les églises africaines, se sont investies dans le travail de mise en place d'institutions d'enseignement supérieur. La deuxième idée, c'est que, en fait, si vous voulez, ces universités sont restées ancrées, articulées à des réseaux qui sont des réseaux beaucoup plus larges que les réseaux francophones. et ont été obligés, si vous voulez, de se trouver à la fois un projet qui est un projet académique, mais aussi un projet qui est un projet financier. Si vous prenez l'université de Dakar dont Hamza a parlé, c'est une institution assez intéressante pour cela. Parce que l'université de Dakar devient une université africaine, sénégalaise, si vous voulez, en 1971. C'est-à-dire entre 1960, l'indépendance, et 1971, pendant 10 ans, cette université est une université française qui dépend de l'Académie de Bordeaux. Moi, j'ai fait mon bac à cette période. Mon bac était un bac de l'Académie de Bordeaux. Donc, vous voyez, l'intérêt, c'est que ces universités françaises ne pouvaient pas s'échapper, si vous voulez, des structures qui sont restées profondément des structures coloniales et des logiques de financement et d'enseignement très marquées par la France. Mais en 71, quand l'université devient une université sénégalaise, et c'est la seule université qui soit restée avec cet article pour le recrutement des enseignants, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ne recrute pas des Sénégalais seulement. Tout Africain est actuellement en position d'être candidat à un poste dans une des universités sénégalaises. Et ça, c'est resté. Quelques enseignants sénégalais se sont battus pour l'enlever en disant « Toutes les universités sont des universités nationales. Pourquoi cette université revendique une position qui est une position africaine ?» Et cette position africaine inclut l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, les pays francophones et les pays anglophones. Donc ça aussi, ça montre que les expérimentations ont duré des années pour trouver, disons, pour trouver une réponse. Mais très rapidement, ces universités ont été créées pour fournir des fonctionnaires à un État en formation.
On reviendra, Mamadou Diouf, sur les buts des universités, justement, dans quel but forme-t-on les étudiants. Jusqu'à 19h, dans le temps du débat, on s'interroge sur l'enseignement supérieur en Afrique, donc, mais aussi sur les trajectoires des étudiants africains qui ne sont pas toujours celles que l'on pense. Écoutez.
Quand j'étais en Afrique, je ne connaissais pas très très bien l'Afrique parce que je n'avais pas assez de contacts. Et aujourd'hui, je connais les gens de partout. Aujourd'hui, je peux aller travailler au Sénégal, je peux aller n'importe où. La Chine m'a ouvert la porte. Si en Chine, on croit à la jeunesse africaine, parce qu'en Afrique, si vous venez fraîchement de terminer vos études, c'est difficile de trouver un travail. Mais ici en Chine, ce n'est pas comme ça.
Il y a pas mal d'entreprises chinoises qui sont en Afrique. 90% des étudiants formés en Chine veulent rentrer en Afrique parce qu'avec un diplôme chinois, vous avez vraiment la chance d'être embauché.
Il s'appelle Fabrice Fouamba, un étudiant congolais en aéronautique qui est donc parti à Pékin. Il a été interrogé en juillet 2019 sur France Inter. En 2017, on comptait 400 000 subsahariens qui ont traversé une frontière pour étudier. Cela représente un étudiant mobile sur 10 dans le monde. Hamza Boukari Yabara, quelles sont les trajectoires de ces étudiants africains? Alors on imagine que les étudiants d'Afrique francophone se rendent vers la France, les étudiants d'Afrique anglophone plutôt vers les États-Unis et le Royaume-Uni. On entend dans ce son qu'il y a de nouvelles trajectoires vers la Chine. C'est souvent un peu plus complexe que ce qu'on imagine.
Oui, c'est plus complexe parce qu'il y a les trajectoires liées aussi au temps de la guerre froide où les pays de l'Est offraient beaucoup de bourses aux étudiants qui étaient originaires des pays socialistes.
Mais aujourd'hui en particulier ?
Aujourd'hui, ça continue. C'est-à-dire que la Chine a une présence africaine qui l'amène effectivement à ouvrir des instituts Confucius, qui sont l'équivalent des instituts français, où on apprend le chinois, où on donne des bourses pour aller étudier en Chine, avec la possibilité d'avoir accès au réseau chinois, qui est un peu le grand réseau du XXIe siècle. Donc c'est très tentant. On a également la Turquie, qui est très active, qui développe sa diplomatie en Afrique et qui offre beaucoup de bourses, en y joignant notamment l'élément culturel et religieux. Donc il y a beaucoup d'étudiants musulmans, camerounais, tchadiens, soudanais, somaliens, qui vont en Turquie, avec des très bonnes universités, notamment scientifiques. On a également la Malaisie, par exemple, qui profite du fait qu'il y a beaucoup d'universités américaines, australiennes ou britanniques délocalisées en Malaisie et qui permettent donc à des étudiants africains d'y aller et d'avoir des diplômes américains en ayant étudié en Malaisie. Les États-Unis également sont toujours présents et continuent à augmenter. D'ailleurs, je crois que des étudiants de nationalité d'un pays africain aux États-Unis constitue le groupe social étudiant le plus diplômé proportionnellement parlant aux États-Unis. Donc on voit bien qu'aujourd'hui on a une diaspora étudiante africaine qui est très développée un peu partout dans le monde. Le Québec joue aussi beaucoup sur la francophonie pour reprendre pas mal d'étudiants à la France, qui effectivement perd de vitesse. Et d'ailleurs c'est pour ça que Macron avait fait son premier discours à l'université de Ouagadougou en essayant de faire revenir un peu les étudiants africains vers la France, mais on voit bien que dans cette mondialisation universitaire, la France s'appuie, on va dire, sur son reliquat colonial et historique, mais elle est en perte de vitesse par rapport à d'autres pays qui ont des stratégies universitaires beaucoup plus dynamiques. Puis enfin, la circulation intra-africaine, notamment vers l'Afrique du Sud, qui est le gros pôle, et puis aussi le Maroc, qui à la fois en transit, mais en même temps lié aux investissements marocains un peu dans toute l'Afrique.
Alors la France, justement, qui en 2019 a décidé d'augmenter la hausse des frais de scolarité des étudiants étrangers, et c'est une grosse augmentation, puisqu'ils sont multipliés par 15. Hein. On passe à 2770 euros par an en licence, 3770 euros pour un master ou un doctorat. Résultat, moins 30 à 50% de candidatures de la part d'étudiants africains dans les établissements français en 2019. Diadé Dembélé, en tant que secrétaire général du Conseil national de la jeunesse malienne en France, vous êtes engagé contre cette hausse des frais d'inscription. Quelles en sont les conséquences? Est-ce que la France perd en attractivité finalement aussi à cause de cette politique?
Bien évidemment, et je vais rejoindre ce que disait l'aîné Hamza par rapport à cette perte de vitesse. Pour moi, cette augmentation des frais, dont le nom c'était bienvenu en France, qui était censé justement ralentir cette perte de vitesse, faire en sorte que des étudiants africains puissent facilement venir étudier en France. Mais ce qui est, moi, je vois comme première conséquence de cette hausse des frais pour les étudiants étrangers, c'est qu'il y a déjà des étudiants qui auraient souhaité venir étudier en France, maintenant qui doivent changer de projet d'études. Et la situation actuelle du coronavirus n'arrange pas les choses. Il y a pas mal d'étudiants qui ont eu des visas qui ont été refusés, à qui on propose de faire des cours à distance et ensuite la rentrée suivante de pouvoir venir en France ici. Et parmi des étudiants qui sont déjà là, ils disent clairement que les doctorants ne sont pas concernés par la hausse des frais, et il n'y a que les primo-arrivants qui soit en licence ou un master paieront les frais. Mais moi, personnellement, si ces frais existaient au moment où j'arrivais en France, je n'aurais pas pu faire les études, parce que un étudiant étranger en France, il n'est autorisé qu'à travailler que 60% de la durée légale, c'est-à-dire que maximum, on gagne entre 600 et 700 euros par mois. S'il faut payer sa chambre en résidence universitaire, payer son transport, payer sa nourriture, et ensuite dire qu'on va payer 2770 euros, je pense que là, ça devient très difficile.
La France qui n'est donc peut-être plus l'Eldorado des étudiants ouest-africains. Il est 18h43 sur France Culture. Quel enseignement supérieur pour l'Afrique? C'est la question qui nous occupe pour encore un quart d'heure. Mais tout de suite, nous partons en République démocratique du Congo avec l'indépendance tcha-tcha-tcha du chanteur congolais Joseph Kabasele. Débat d'été, Camille Diao. 30 juin 1960, le Congo belge prend son indépendance et c'est la même année que le Grand Calais enregistre ce morceau Indépendance Tcha-Tcha. Jusqu'à 19h, on s'interroge sur l'enseignement supérieur africain 60 ans après les indépendances avec nos quatre invités, Mamadou Diouf, historien, Hamza Boukari Yabara, historien également, Diadié Dembélé, étudiant membre du Conseil national de la jeunesse malienne en France, et puis Khadijatou Marou Sama, sociologue nigérienne, et c'est à vous que j'adresse la prochaine question. On parlait de la mobilité des étudiants africains. Quel rôle jouent les diasporas académiques dans l'enseignement supérieur de leur pays d'origine? Quel rôle jouez-vous, Khadijatou Marou Sama, vous qui êtes originaire du Niger?
Oui, donc déjà, en fait, je précise que j'ai fait ma thèse de doctorat sur le Niger. En fait, depuis que j'ai commencé ma formation universitaire, je me rappelle, j'étais au Maroc en formation et un jour, on nous a donné l'opportunité de faire un exposé. Je voulais en fait travailler sur le Niger pour en savoir un peu plus sur mon pays. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Quand je suis venue en France, ça s'est poursuivi. Mes stages, je les ai portés sur le Niger. Et donc, ma thèse de doctorat a porté sur l'enseignement supérieur et la recherche au Niger. Ça me permet donc d'aller sur le terrain, dans les institutions de recherche, les universités, faire des entretiens, m'entretenir avec les chercheurs, discuter aussi avec les étudiants. Donc, j'essaie en tout cas ma façon en fait d'apporter ma modeste contribution à la production de connaissances sur mon pays. Et justement, cette démarche s'inscrit d'ailleurs, dans le cadre en fait de l'objectif même du centre de réflexion Thinking Africa, qui estime que justement les Africains doivent produire des connaissances sur eux-mêmes. Et se fixe aussi pour objectif de contribuer justement à la valorisation des savoirs africains, tout en proposant en fait des analyses et des recommandations aux institutions ainsi qu'au gouvernement.
Il y a une tribune qui est parue à ce sujet dans Le Monde en mars 2019 qui est assez intéressante à lire. Non, les universitaires africains restés à l'étranger ne sont pas des traîtres. C'est le nom de cette tribune signée par le sociologue Amidou Dia et le politiste Luc Ngwe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Est-ce qu'il faut convaincre les étudiants étrangers, les étudiants africains partis à l'étranger de revenir au pays? Est-ce que c'est une nécessité, Hamzat Boukari Yabara?
Alors aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses à distance. On peut donner des cours à distance. On peut faire des copublications avec des centres universitaires qui sont en Afrique en étant dans une université occidentale et donc donner aussi plus de crédit à ce qui est fait sur le continent. Donc on peut mettre en place aussi des partenariats, des écoles, des universités d'été en liant le centre dans lequel on est en Occident et un centre universitaire en Afrique. On peut suivre aussi des étudiants en co-tutelle. Les faire venir, on peut créer beaucoup de choses en étant à l'extérieur du continent africain, donc c'est un premier élément qu'il faut souligner, donc c'est une valeur ajoutée. On a probablement effectivement une diaspora qui est peut-être la plus qualifiée du monde quelque part. Dans le même temps, revenir sur le continent africain, oui, dans des conditions intéressantes. Il y a quelques centres universitaires en Afrique qui proposent effectivement des conditions qui parfois n'ont rien à envier à ce qu'on peut trouver en Europe ou en Occident. Donc je pense que les positions sont plus nuancées que cela. Puis après, il y a les trajectoires personnelles des uns et des autres qui se jouent également à ce niveau-là. Et évidemment aussi les questions politiques, puisque bien évidemment, des fois, on aborde des sujets qui font que c'est très sensible de les aborder dans les pays dont on est originaire aussi.
Donc parfois plus simple de travailler sur l'Afrique hors d'Afrique que quand on est...
Malheureusement, la grande partie du travail sur l'Afrique se fait aujourd'hui hors d'Afrique. Donc il y a un rendu à faire. Tout un travail également sur les bibliothèques, parce que si on va hors du continent africain, c'est parce qu'on est en quête de ressources. Les archives sont bien souvent à l'extérieur du continent africain quand on fait de l'histoire. Donc tous ces éléments-là sont aussi à interroger dans la méthodologie de nos disciplines. Comment les réafricaniser, comment les décoloniser?
Alors, je le disais en introduction de cette émission, le nombre de jeunes en Afrique subsaharienne explose d'ici 2027. On prévoit 63 millions de 15-24 ans. C'est 20% de plus qu'aujourd'hui. C'est cette jeunesse qui va succéder à la classe dirigeante d'aujourd'hui. Khadijatou Marou Sama, est-ce qu'il vous semble important que cette future élite politique et économique soit formée sur le continent?
Oui, en fait, j'estime que à l'heure actuelle, en fait, les mobilités peuvent être aussi cruciales. Mais sur le plan de la formation, pour moi, en tout cas, aujourd'hui plus que jamais, en fait, la crise sanitaire liée due au coronavirus nous montre déjà que les universités ont un rôle important à jouer dans le développement et l'économie de l'Afrique. Parce que quand même, il faut souligner qu'au niveau des universités africaines, même s'il y en a qui souffrent quand même de manque de matériel et équipement, il y a eu des initiatives qui ont été prises par les universitaires et les chercheurs travaillant dans les instituts de recherche. Ils ont mis au point des gels pour se désinfecter les mains. D'autres ont carrément inventé des appareils pour justement gérer la crise liée au coronavirus. Donc pour moi, aujourd'hui, plus que jamais, les dirigeants africains doivent vraiment faire en sorte qu'en fait les universités et instituts de recherche occupent une place centrale en fait dans leur politique. Et cela passe justement par une communication, un dialogue avec des espaces de production de connaissances. Ils doivent tenir compte en fait des résultats de leurs recherches. Et aussi, l'une des recommandations que je propose justement, c'est de mettre en place des écoles éventuellement sous-régionales en Afrique afin que les étudiants africains puissent rester en Afrique, se former sur vraiment des problématiques qui sont propres à l'Afrique. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent se former en Occident. Quand ils rentrent, soit ils sont trop diplômés, soit la filière dans laquelle ils se sont formés n'est pas très développée, donc il n'y a pas de poste pour eux. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut en fait que les Africains arrivent à créer des universités, des centres de recherche, des écoles régionales qui sont vraiment en lien avec les problématiques africaines afin de trouver en fait vraiment des solutions aux problèmes que nous rencontrons au quotidien en Afrique les discours le disent, il y a des discours qui disent que effectivement l'avenir de l'Afrique se trouve dans sa jeunesse. Donc il faut que cette jeunesse puisse avoir vraiment de quoi pouvoir se former sur place et répondre en fait aux préoccupations que rencontrent au quotidien les populations.
Hamza Boukhari Yabara, quelles sont les compétences qui sont manquantes aujourd'hui en Afrique ?
Je pense que dans le secteur de l'agronomie, notamment dans le secteur de l'ingénierie, il y a des gros besoins, dont la communication également. Donc c'est principalement les secteurs scientifiques. Je pense néanmoins qu'il ne faut pas non plus marginaliser tout ce qui est lié aux sciences humaines et sociales, qui sont souvent vues comme les secteurs inutiles, les usines à chômeurs, alors qu'en fait c'est très important de développer la pensée. Un État ne peut pas se développer sans pensée. Mais néanmoins, tout ce qui est lié, on va dire, au secteur industriel, à la transformation et à l'agronomie, je pense, c'est un gros manque aujourd'hui et est souvent occupé justement par les ONG, par le secteur de l'humanitaire, qui est du coup l'un des pôles de recrutement des chercheurs enseignants africains, ce qui les amène du coup à décaler un petit peu leur priorité et à les recentrer sur la question du développement. Donc en fait, l'un des enjeux, c'est la question du financement du secteur de la recherche et du développement, R&D, comme on dit, au niveau des universités africaines. Et d'autre part, en lien avec ce qui a été précédemment dit, je pense que le plus important aussi, c'est de penser la question du droit à étudier chez soi, qui se pose pour les étudiants africains, qui se pose aussi pour les étudiants martiniquais, réunionnais ou guyanais, hein, qui doivent quitter leur territoire pour aller étudier. Et donc, je pense que ce droit d'étudier chez soi, c'est un élément de souveraineté. Donc, il faut effectivement que les États prennent leurs responsabilités, qu'on puisse développer une autre carte du monde universitaire africain. Il y a des universités virtuelles, l'Union africaine, la francophonie ont également des réseaux à l'échelle continentale. Mais tout cela doit être, je pense, repensé et peut-être recentré effectivement sur les besoins du continent africain aujourd'hui.
Alors nous avons perdu la liaison avec Mamadou Diouf, c'est pour ça que vous ne l'entendez plus depuis tout à l'heure. On espère qu'il sera à nouveau avec nous d'ici la fin de cette émission. Vous évoquiez à l'instant le droit à étudier chez soi. C'est un droit dont vous n'avez pas pu bénéficier, Diadé Dembélé, mais je voudrais revenir avec vous sur le terme de décolonisation des savoirs qui a été évoqué rapidement un peu plus tôt dans cette émission. Je crois savoir que c'est un terme qui vous déplaît, en tout cas pour vous l'enjeu est ailleurs, Diadé Dembélé. Je rappelle que vous êtes un étudiant malien ici en France.
Oui. En fait, pour venir au mot décolonisation, le mot me déplaît pas en soi dans la démarche, il est tout à fait utile et je comprends parfaitement, mais je pense que, et je parle de là où je parle avec l'âge que j'ai, aujourd'hui en Afrique, nous sommes une génération qui n'avons ni connu la colonisation, ni les indépendances, ni même moi. Je suis né, pour ce qui est du cas du Mali, après la révolution de mars 1991. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'entendre d'autres points de vue sur ce que sont les savoirs en Afrique. Certes, la colonisation, elle a eu lieu. Certes, aujourd'hui, si je m'exprime en français, c'est que le Mali a été colonisé par la France et que la langue d'enseignement, c'est le français, et que tout ceci devrait changer. Mais je pense justement que ces problématiques doivent être étudiées au niveau local, c'est-à-dire qu'on tiennent non seulement pas compte du fait que la France a été là, mais quelles sont les langues qui sont là, quelles sont les langues que les enfants parlent déjà à la maison et comment faire en sorte que les enfants puissent étudier dans ces langues qu'ils parlent à la maison, comment faire en sorte que l'histoire, la géographie de l'Afrique, les sciences, comment les traduire dans les langues, de telle sorte que même des adultes qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisés plus tôt puissent accéder à ces savoirs-là. Et je pense que tout ceci va... au-delà de la décolonisation, il y a, enfin, si je peux me le permettre, une nécessité de faire une révolution culturelle centrée sur l'Afrique elle-même.
Et cette question de l'accès au savoir et à l'enseignement, elle est cruciale quand on sait que en Afrique, seuls 5% d'une classe d'âge accèdent à l'enseignement supérieur. Pour donner un point de comparaison, la moyenne mondiale est de 25%. Donc, je crois qu'on a retrouvé Mamadou Diouf. D'ailleurs, vous êtes là ?
Oui, je suis rabondi.
Très heureuse que vous soyez de retour avec nous. Cette question d'élargir l'accès à l'enseignement supérieur pour les jeunes africains, ça va être aussi un des enjeux cruciaux des années, des décennies à venir.
Absolument. Et en fait, aujourd'hui, c'est sur cette question que nous devrions réfléchir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 50 ans après les indépendances, c'est le temps de la réflexion. Parce que sur beaucoup de questions, on n'a pas réfléchi. On s'est battu, on s'est discuté, on s'est querellé sur les langues d'enseignement, sur le rôle des langues, les langues africaines dans la formation, etc., etc. Mais rien n'a été résolu, si vous voulez. L'un des rares, les deux pays où les langues africaines ont été promues au rang de langue officielle et de langue nationale, le Kenya et la Tanzanie avec le Swahili. Même là, on se retrouve effectivement dans une situation où l'élite continue à envoyer ses enfants dans des écoles qui sont des écoles anglophones, ce qui fait que il y a, si vous voulez, une inégalité et une discrimination. Alors que ce qu'il faudrait, c'est de véritables politiques, non pas nationales. La crise des institutions éducatives est une crise qui est liée au fait qu'aujourd'hui, les espaces nationaux, ces territoires coloniaux qui sont devenus des nations, sont incapables de porter des projets d'éducation qui sont des projets universels et des projets qui réussissent. Donc ce qu'il faudrait, c'est une démarche régionale. Et cette démarche régionale est nécessaire pour tout aujourd'hui. Et quand on a cette démarche régionale, on peut faire des choix de langue nationale en ayant une formation qui allie effectivement l'utilisation des langues nationales et l'utilisation des langues héritées de la colonisation. Je dois dire que aujourd'hui, la langue française, je suis désolé, la langue française pour moi n'est pas attaché à la France comme pays, c'est aussi ma langue.
Et c'est sur cette idée que nous allons devoir nous quitter, Mamadou Diouf, désolé. Il est presque 19h. Merci à tous d'être venus participer à ce temps du débat, 60 ans après les indépendances. Quel enseignement supérieur pour l'Afrique? Merci Mamadou Diouf, Diadier Dembélé, Khadija Toumarou Sama, Hamzat Boukari Yabara, d'être venus esquisser ces quelques pistes pour l'avenir des universités africaines que l'on espère radieux. À quand des étudiants européens qui s'expatrient en Afrique pour y étudier mieux que chez eux, eh bien permettons-nous d'espérer que ce soit pour bientôt. Merci à l'équipe du Temps du Débat pour la préparation de cette émission. Sophie Alavi, Alexandra Delbo, Audrey Dugas, Mathilde Tonfourcade, Nicolas Berlin, à la technique ce soir Ludovic Auger, à la réalisation Émilie Valla. On se retrouve demain 18h15 avec une nouvelle thématique, streaming ou salles obscures, où est l'avenir du cinéma? Et puis dans les matins d'été, demain 7h-9h, Chloé Cambrelin recevra Benjamin Stora, historien en charge de la mission mémorielle conjointe France-Algérie qui a été initiée par les deux pays sur le thème « La mémoire peut-elle réconcilier les peuples ?» Très belle soirée sur France Culture et à demain.